Je sous-signais Arthur Rimbaud, né à Charleville, France.
Je veux être poète et je travaille à me rendre voyant.
Un été avec Rimbaud, l'éternité.
C'est la mer, aller avec le soleil.
Par Sylvain Tesson de Sylvain.
Frères et sœurs.
Arthur Rimbaud n'est pas seul. Il a un frère et deux sœurs. Frédéric est l'aîné d'un an. Même prénom que le père, même absence. Il sera le frère gommé de la photo. Avec Arthur, les relations n'existeront presque pas. La mère, parent terrible, reniera le grand-fils. Son crime ? Le déclassement social. Arthur est fou, Frédéric a raté. Quand il deviendra cocher de carriole, elle le méprisera carrément. Il ne sera pas convié aux obsèques d'Arthur ni de sa propre mère. C'est moche, l'annulation d'un homme.
Émilie Rimbaud, la fille de Frédéric Rimbaud. Elle se souvient de sa première et dernière rencontre avec sa grand-mère.
J'avais 5 ans. Mon père voulait me faire connaître ma grand-mère. Alors il est arrivé avec nous à Roche. Il m'a poussé dans la maison. Il a fermé la porte. Alors aussitôt, il y a une grande ombre noire qui s'est levée, qui a pris le balai, qui m'a mis dehors. C'est tout. Même pas au revoir, même pas embrasser, rien, absolument rien.
Et vous l'avez jamais revu après ?
Non, jamais.
Pour le moins insolite de votre grand-mère, comment l'expliquez-vous ? Pourquoi avait-elle tant de rancune contre votre père ?
Ben parce que mon père s'était marié avec une personne qui ne convenait pas, qui n'était pas assez riche, qui était des ouvriers par le fait.
Vitalie porte mal son nom. C'est une fleur pas très vitale. Elle naît en juin 1858 et meurt en décembre 1875 d'une maladie au nom désuet qui fleure le transat et le sanatorium. Synovite tuberculeuse.
En fait, c'est pour parler affaires que je viens vous voir, Monsieur Verlaine. Je sais que vous avez gardé un grand nombre de manuscrits de mon frère.
J'en ai quelques-uns, c'est vrai.
Ce qui m'inquiète, Monsieur Verlaine, pour être franche, c'est que beaucoup de poèmes qu'il a écrits dans sa jeunesse sont tout à fait inconvenants.
Isabelle est la deuxième sœur, née en 1860. Elle, c'est la pièce maîtresse du dispositif familial. Le mari d'Isabelle, Paterne Berrichon, épousé en 1897, s'occupera avec elle de retricoter le mythe à la sauce bigote, de lisser le portrait et d'engommer les ombres. Ils n'ont pas envie d'un enfant barbare, mais ils veulent un génie catholique et propre. Le programme ? Prouver que les relations avec Verlaine furent chastes. Accréditer l'Arthur converti au catholicisme dans ses draps d'agonie à Marseille. Accessoirement, recueillir les dividendes des publications qui commencent à se diffuser au début du XXe siècle.
Lettre d'Isabelle Rimbaud du 28 octobre 1891 à sa mère.
Quand je suis rentré près d'Arthur, il était très ému mais il ne pleurait pas. Il était anxieux, mais pas désespéré comme les autres jours. Et je le voyais très bien qu'il désirait ardemment les sacrements et la communion surtout. Depuis, il ne blasphème plus jamais. Il appelle le Christ en croix. Et il prie, oui, il prie, lui.
On peut reprocher ces propagandes à Isabelle la catholique. Reste que, traficotage ou pas, elle fut là, à la dernière heure, à l'hôpital de Marseille, veillant sur Rimbaud comme une bonne dame blanche, le pansant, le lavant, le baignant, et consignant ce dernier mot de son frère, craché à la gueule du ciel par un mourant furieux, « J'irai sous la terre, et toi, tu marcheras dans le soleil. » L'hôpital est un tribunal. Quand on y meurt, il y a ceux qui sont à votre chevet et ceux qui n'y sont pas. C'est injuste, mais c'est comme cela. Isabelle était là, légitimité absolue.